Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndani Kamara.
L'absence de l'autorité de l'État est même des symboles du pouvoir dans plusieurs entités territoriales du pays et l'une des causes de la problématique de la paix en RDC. C'est le constat fait par des universitaires au Forum national sur la paix et le développement démocratique en RDC. En début de cette saison de pluie, près de 100 experts en environnement proposent des solutions fondées sur la nature pour prévenir d'inondations et érosions à travers le pays. Les détails dans quelques instants. Le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, est l'invité de ce journal. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, il revient sur le processus du remplacement des deux membres du bureau de la Chambre basse du Parlement qui ont démissionné, mais aussi explique les priorités de cette session essentiellement budgétaire. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal matinal. L'absence de l'autorité de l'État et même des symboles du pouvoir dans plusieurs entités territoriales du pays est l'une des causes de la problématique de la paix en RDC. Et aujourd'hui, le phénomène braquage est en train de remplacer celui du banditisme urbain dit Kuluna. C'est le constat fait par des universitaires au Forum national sur la paix et le développement démocratique en République démocratique du Congo, organisé hier mercredi à Kinshasa par l'Institut pour la démocratie et le leadership politique IDLP en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Ce forum a réuni des universitaires et politiciens venus des divers horizons. Ils ont échangé sur les causes et les défis qui se dressent sur la problématique de la paix. L'objectif visé, aider les politiciens à formuler des politiques publiques, à bien décider et à proposer une stratégie de sortie de cette problématique. Reportage de Jeff Ngoy Molonda.
La paix relève de la volonté des hommes, un défi majeur selon le président de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique, professeur Pamphile Mabiala.
La paix a besoin des gens qui ont besoin de la paix et non pas qui veulent profiter de la guerre pour vivre autrement des richesses des autres. Donc les scientifiques veulent dire que c'est A et c'est B. Pour résoudre ce problème-là, A plus B égale combien? Ils doivent trouver la solution au problème, proposer une stratégie de solution au problème.
Timo Raoudjin, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, explique la paix et son impact.
Qu'est-ce qu'est la paix ? Pour certains, cela signifie la fin de la violence et la cessation officielle des hostilités. Pour d'autres, le retour à la résolution des conflits par des moyens politiques. Certains définissent la paix comme l'obtention de la justice et de la stabilité sociale.
D'après le secrétaire exécutif de l'IDLP, professeur Germain Kounamaba, la paix reste un horizon fuyant. Elle ne se décrète pas, mais plutôt elle se construit à travers une conscience collective. Et le développement démocratique implique la participation citoyenne. Une feuille de route assortie des pistes de solutions pour sortir de la crise sécuritaire actuelle de la RDC sera ainsi proposée au chef de l'État.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, les activités de démobilisation des groupes armés sont paralysées depuis bientôt 2 mois. En cause, une grève sèche des cadres et agents du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS. Ces agents réclament 36 mois d'arriéré des salaires, des primes et autres avantages sociaux. Cette situation met à mal le désarmement des combattants dans une province où plusieurs groupes armés continuent d'opérer. Les détails avec Martial Papimukeba.
À Beni, Butembo, Lubero, Masisi et Walikale, les activités du PDDRCS sont suspendues depuis plus de 50 jours. Conséquence, les combattants candidats à la reddition volontaire ne savent plus à qui s'adresser et les ex-combattants en attente de réinsertion communautaire n'ont plus d'interlocuteurs. Les agents du PDDRCS en grève dans la province affirment maintenir leur mouvement jusqu'à l'obtention d'une réponse à leurs revendications. Malikidogo Mutsuva est l'un des grévistes.
Nous réclamons 36 mois d'arriéré de salaire, primes et avantages sociaux. Nous maintenons notre grève sèche jusqu'à l'obtention d'une réponse à notre revendication. Travailler de manière engagée sans être payé.
Aucune réaction officielle du PDDRCS n'a encore été enregistrée. Le 13 octobre dernier, une question orale avec débat a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par les députés Sosthène Maombi Katsongo, élu du territoire de Lubero. Il exige des explications du ministre de la Défense nationale sur la nature des appuis fournis par son ministère au PDDRCS ainsi que sur les contrôles de la gestion des fonds alloués à la coordination nationale du programme. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
En Ituri, la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa dénonce la détention illégale de plus de 150 prévenus dans la prison centrale de cette entité. Dans une note de plaidoyer adressée lundi aux autorités judiciaires provinciales, cette structure citoyenne indique que ces détenus sont poursuivables par une juridiction militaire qui, selon elle, n'existe pas dans ce territoire. Ce qui constitue, selon cette structure citoyenne, une violation grave des droits de l'homme. Elle plaide pour l'organisation des audiences foraines sur place à Mambasa. Martial Kiza Biamongo pour les détails.
La prison centrale de Mambasa, construite à l'époque coloniale, héberge actuellement 536 détenus, dont 150 qui sont poursuivis pour des faits militaires. Selon la nouvelle société civile congolaise de ces territoires, beaucoup parmi ces prévenus ont déjà passé plus d'une année sans être entendus sur les faits qui leur sont reprochés. Jospé Paloko, le coordonnateur de la nouvelle société civile de Mambasa, indique que c'est la conséquence du manque des juridiction militaire dans ces territoires. Il demande à la justice militaire de tout faire pour organiser des audiences en chambre foraine pour permettre à ces personnes détenues illégalement de connaître leur sort, ce qui, ajoute-t-il, permettra aussi de désengorger cette maison pénitentiaire.
Il y a une organisation d'une audience foraine ici à Mambasa Centre et surtout que ces derniers bénéficient jusqu'à preuve du contraire de la présomption d'innocence.
Les conditions de détention déplorables dans cette prison accentuent la vulnérabilité des détenus, alerte la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa. Bounia, Martial Kizabiabungu, Radio Okapi.
Scandale vendredi dernier à l'audience du tribunal de grande instance de Mweneditu dans la province de Lomami. Le procureur de la République s'est retiré de la barre sans autorisation de celui qui dirigeait le procès. Il a même enlevé sa toge noire, pour manifester son mécontentement devant les justiciables. Le président du tribunal de grande instance demande au conseil supérieur de la magistrature d'appliquer la loi. Mais le procureur de la République dit se réserver de tout commentaire. Des explications avec Esther Ndalafina.
Champion Kabamba Manga, président du tribunal de grande instance de Mweneditu, déplore l'attitude affichée à l'audience vendredi dernier par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mweneditu.
Je déplore les comportements des procureurs chefs de parquet. Mon rôle est de recadrer un peu les interventions. Je fais la police de l'audience. Et il a demandé avec son subtil. Ils ont parlé. Ils ont demandé encore la parole pour faire de redites de pétition sur pétition. Et je recadrais pour dire qu'éviter un peu de redites de avancer. Le chef de parquet a trouvé ça anormal. Il s'est levé pour enlever un peu sa toge et sortir de la salle d'audience et ça scandalisait un peu le monde. Eh bien, sans tenir compte du statut des magistrats qui nous lient.
Contacté, Charlie Amani Kitoko, procureur de la République, dit se réserver de tout commentaire, signalant que le président du tribunal de grande instance prévoit de contacter les conseils supérieurs de la magistrature. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Au sud Kivu, la 33e région militaire a deux nouveaux commandants désignés par la haute hiérarchie des FARDC. Ils ont débarqué à Uvira ce mercredi par la porte des camps Vivira, à la frontière avec le Burundi. Les généraux de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques et Amoli Siviri sont désignés respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud, Sud Kivu. Reportage.
Les deux nouvelles autorités militaires arrivent à Uvira dans un contexte particulier. Uvira est devenu le siège des institutions de la province du Sud Kivu depuis l'occupation de la ville de Bukavu par l'AFC M23 mi-février dernier. L'armée, la police, tous les services de sécurité ainsi que le gouvernement provincial sont installés à Uvira. L'état-major de la 33e région militaire avait été amputé de ses deux hauts responsables avec le décès de suite d'une maladie au mois d'août dernier du général de brigade Mwakumbuluku Jean-Daniel qui tenait le commandement. Le général Gassita, qui avait été envoyé pour occuper le poste vacant du commandant secteur opérationnel, avait été contesté par la population à travers des manifestations violentes. C'est cette place-là que vient occuper le général de brigade Amuli Chiviri.
Nous le disions en titre, en début de cette saison de pluie, près de 100 experts en environnement proposent des solutions fondées sur la nature pour prévenir d'inondations et érosions à travers le pays. Ils ont ainsi réagi lors d'un atelier organisé ce mercredi par l'ONG Climate Change Africa Opportunity, CCAO, et son partenaire Oka Global à Kinshasa. Ce forum s'est inscrit dans le cadre du projet gestion des risques d'inondations urbaines et d'érosions des ravines dans les bassins du Congo. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Après plus de deux heures de débats et échanges, les participants à cet atelier recommandent la végétalisation des différentes infrastructures de base, notamment des routes construites à travers les pays. Ils conseillent également la population à recourir à la construction des sacs végétalisés et à la restauration urbaine avec les reboisements pour faciliter la rétention des sols et prévenir des têtes d'érosion, notamment dans la ville de Kinshasa. À cette occasion, les responsables de l'ONG Climate Change Africa Opportunities attirent la sonnette d'alarme et appellent la population à s'organiser en adoptant des comportements responsables. Trésor Badisungu.
Nous avons besoin que la population puisse s'organiser au niveau de nos quartiers, adopter des comportements citoyens face à la protection de notre environnement. Parce que l'environnement, c'est le cadre de vie. Quand on jette des poubelles partout, on bouche les caniveaux. Et là, nous nous attirons nous-mêmes des problèmes. Mais quand on cherche à vider les caniveaux, on ajoute des solutions locales qui peuvent nous aider, même sans moyens.
Financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'ONG Climate Change Africa Opportunity, le projet gestion des risques d'inondation urbaine et des régions des ravines est opérationnel dans quelques pays du bassin du Congo, notamment au Burundi, en République centrafricaine, en République du Congo, au Gabon et en RDC.
Une équipe de la FAO est arrivée le mercredi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, en croire Maxwell Chibesanda, directeur adjoint du bureau à urgence et résilience au siège de la FAO et chef de cette délégation. L'objectif est de voir les activités déjà menées sur le terrain par l'organisme et d'échanger avec les autorités et les bénéficiaires. Parmi les projets qui seront visités, on trouve les travaux champêtres dans la commune de Nganza et la radio communautaire Kananga 24 appuyée par la FAO pour sensibiliser la population sur la paix et la lutte contre la famine. Cela dans le but de voir comment améliorer l'appui de la FAO en province et comment mobiliser les ressources et aider dans le problème d'insécurité alimentaire. Au Kasaï oriental, suspension momentanée à Mbujimayi de contrôle des plaques minéralogiques des motocyclettes. Au cours d'une rencontre avec l'autorité provinciale la semaine dernière, les associations des motocyclettes ont sollicité un moratoire jusqu'au début du mois de novembre prochain. Revenons à la capitale avant d'aller plus loin. Les 32 années de règne de Mobutu Sese Seko en exposition ici à Kinshasa. Cet événement qui se tient depuis la semaine passée au Musée National est intitulé Mobutu, une vie, un destin. Jeunes, parents et d'autres curieux viennent plonger dans ce parcours photographique du deuxième président qui a dirigé le Zaïre, actuel RDC, 32 ans durant. Une initiative de sa famille biologique. Josué Kefebe nous fait le point de cet événement.
L'exposition se veut une relecture nuancée de la vie et de l'héritage du maréchal, mêlant les parcours politiques du père, de l'authenticité et de sa vie intime familiale. C'est ce qui rencontre ces héritages exposés au Musée national. Les organisateurs soulignent la volonté de créer un espace de mémoire collective et des réflexions pour tous les Congolais, en particulier la jeunesse. Sur des niveaux, les halls du musée présentent une collection composée de photographies, fauteuils symboliques, statues œuvres d'art, même des articles de presse, de sa carrière de journaliste et d'autres objets qu'il a laissés comme héritage. L'exposition n'exclut pas un débat invitant à une compréhension globale et apaisée de cette période cruciale pour la nation. Ouverte jusqu'au 30 octobre, cette rétrospective se présente d'après les organisateurs comme un devoir de mémoire pour construire l'avenir. Mobutu Sese Seko, deuxième président du Zaïre, est décédé en 1997 après plus de trois décennies au pouvoir.
Actualité internationale.
Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour la présidentielle du 25 octobre 2025. La santé a été un des thèmes récurrents de la campagne. En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie moyenne est de 62 ans. Un dispositif tente d'améliorer l'accès à la santé pour tous, la couverture maladie universelle. Mais celle-ci se heurte aussi à des limites. Au Mali, le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, a limogé et remplacé trois hauts gradés de l'armée dans un contexte plutôt difficile pour les troupes sur le terrain face aux djihadistes. Et parmi les promus figure le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, un connaisseur du terrain djihadiste.
L'invité
de la rédaction et le rapporteur de l'Assemblée nationale, dans une interview exclusive accordée à Radio Capi ce mercredi à Kinshasa, le professeur Jacques Njoli revient sur le processus du remplacement de deux membres du bureau de la Chambre basse du Parlement qui ont démissionné, mais aussi explique les priorités de cette session essentiellement budgétaire. Il s'entretient avec Grace Hamzati.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour.
Ça fait un mois que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de président ni de rapporteur adjoint. À quand l'élection du nouveau président?
C'est vrai qu'il y a eu la démission du président et du rapporteur adjoint, mais le bureau de l'Assemblée fonctionne normalement parce que le règlement d'ordre intérieur du Parlement, de l'Assemblée, prévoit que lorsque le président n'est pas là, il est remplacé par son vice-président. Tout comme en ce qui concerne le rapporteur adjoint, c'est les rapporteurs qui, selon le règlement, assurent sa suppléance.
Quand est-ce que le budget sera examiné et adopté par l'Assemblée nationale parce que les temps aussi courent?
C'est vrai qu'une session parlementaire, session législative, n'a que 90 jours. Et là, nous venons pratiquement, comme vous l'avez dit, dépasser plus ou moins 30 jours. Mais sur le plan de l'organisation du travail, il ne se pose pas non plus de questions. Étant entendu que cette semaine, ou plus tard au début de la semaine prochaine, nous allons avoir les travaux préalables, à savoir le débat sur le projet de loi portant reddition des comptes du budget de 2024-2025. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas toujours la faute au Parlement. Il faut savoir que la reddition des comptes ne peut pas se faire sans que nous ayons reçu les observations de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes nous a promis de déposer ces observations au plus tard cette semaine. Et lorsque nous aurons les observations de la Cour des comptes, nous allons programmer cette séance de reddition des comptes. Après, bien sûr, nous allons avoir la présentation du projet des lois des finances 2026 entre le 3 novembre et le 5 novembre.
Et là, ça sera sans ou avec le nouveau président?
En ce qui concerne la question de vacances et des désignations de nouveaux présidents, de nouveaux rapporteurs, lors de la plénière d'hier, le 21 octobre, nous avons annoncé aux députés le début de l'ensemble du processus électoral. Le processus électoral pour la désignation des membres du bureau chez nous, c'est une procédure politico ou juridique. Il y a des phases informelles de concertation entre les forces politiques. Le poste de président appartient à la majorité. Donc, c'est la majorité, on s'appelle l'Union Sacrée, qui doit nous présenter les candidats qui est retenu au sein de cette plateforme, tout comme au sein de l'opposition, qui a un groupe parlementaire au sein de cette assemblée, que nous aurons les deux candidatures. Et je crois que avant la fin du mois, nous aurons des élections proprement dites pour le poste de président de l'Assemblée et le rapporteur adjoint.
Quelles actions envisagées par les bureaux de l'Assemblée nationale pour faire face aux enjeux de l'heure, notamment la crise sécuritaire dans l'est du pays? Nous avons le phénomène Mobondo à l'ouest, la vie chère, parce que c'est ça que la population attend de vous.
À ce qui concerne la crise sécuritaire à l'est, vous savez que l'Assemblée nationale reste mobilisée tous les 15 jours pour examiner la question de prorogation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. L'Assemblée nationale reste, comme tous les Congolais, très focalisée sur les négociations qui se tiennent à Doha, à Washington, autour de la restauration de la pleine souveraineté de notre pays. Et à temps opportun, l'Assemblée nationale sera invitée, consultée, pour donner la ratification aux différents textes qui sont en discussion. Pour les députés qui siègent ici, le Congo restera un et indivisible. En ce qui concerne le Mobondo, il y a une question orale au ministre de l'Intérieur qui est programmée. Il y a aussi des missions de députés qui ont été dépêchés dans les Kwango, dans les Kwilu, comme dans le Maïndombe, pour la restauration rapide de la paix et de la sécurité dans cette partie du territoire qui est perturbée par ces fameux Mobondo.
Par rapport à la vie chère ?
Par rapport à la vie chère, il y a des questions orales qui sont adressées au gouverneur de la Banque centrale pour savoir toute la problématique de ces mouvements de régulation du dollar et la stabilisation du franc congolais. La question du décalage entre la chute du dollar mais la fixité des prix sur le marché préoccupe la population et les députés en première ligne y sont impliqués, tant au niveau de la commission ECOFIN que de la plénière.
Professeur Jacques Doly, je vous remercie.
C'est moi.
Nous vous remercions aussi de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.